Question numéro 3.
Donc, quels sont les éléments de bilan que vous sélectionnez pour choisir vos techniques et surtout pour évaluer les résultats du traitement? Lors de la conférence, Joël André Vert avait fait une petite synthèse en disant que la restauration posturale était plus sur un bilan morphologique. La méthode McKenzie était liée plus à un examen clinique centré sur la douleur et la fonction. Et pour le redressement axial, plus sur la douleur, la fonction et la force et l'endurance des muscles. Donc on va reprendre les intervenants un à un pour voir quels sont leurs avis sur cette position, donc mécanisant pour la reconstruction posturale.
Alors, Joël, la conclusion qui a été amenée après la conférence était un petit raccourci. Alors je vais essayer de détailler un peu parce que probablement je me suis mal fait comprendre pendant la conférence. D'abord pour choisir les techniques. Tout d'abord, il y a la règle de la non-douleur qui est absolument essentielle. C'est-à-dire quelqu'un qui a une lombalgie, qu'elle soit aiguë chronique, subaiguë, toute manœuvre qui va accentuer de manière durable, c'est-à-dire plus d'une ou deux minutes, cette douleur, cette manœuvre sera proscrite. Ensuite, il y a surtout la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle un critère de validation. Alors là, il faut que je m'étende un tout petit peu, je vais aller vite. Critère de validation en reconstruction posturale, c'est trois éléments. Une induction et une irradiation et une réponse évoquée à distance. L'induction, c'est quoi? L'induction, c'est que certains mouvements de grande amplitude relative sont asservis à des réponses évoquées à distance. C'est ceux-là qui nous intéressent. Réponse évoquée à distance, par exemple, si une rotation céphalique provoque une adduction d'une cheville ou un mouvement d'un genou, on va dire que ça provoque une réponse évoquée à distance. Comment est-ce qu'on peut définir une réponse évoquée à distance? Eh bien, on va dire que c'est une réaction paradoxale qui va être d'ordre mécanique, une contraction avec ou sans mouvement involontaire, mais surtout une aggravation d'une dysmorphie, d'une déformation que l'on va induire. C'est-à-dire que la dysmorphie aura été au préalable bilantée et le mouvement, l'induction, va l'aggraver à distance. Cette réponse évoquée peut aussi être d'ordre végétatif, une sudation localisée, des dermographies, des troubles du comportement ou aussi des troubles de l'entendement. Et alors à distance, cette induction va provoquer par irradiation, par facilitation, une réponse évoquée donc, et la distance entre cette induction et la réponse évoquée est appelée bras de levier. Plus cette distance est longue, plus la manœuvre va être efficace et rapide. La raison pour laquelle ça se produit comme ça est complètement ignorée pour l'instant, mais elle est en cours d'exploration. Pour les lombalgies, on est souvent obligé de traverser la zone cible, l'objectif qui est la zone lombaire, en mettant une induction par exemple au niveau de la tête ou des mains et en recherchant une réponse évoquée au niveau des pieds ou inversement. Et pour finir, il faut obtenir un critère d'arrêt. Le critère d'arrêt, eh bien, ce sera bien sûr la réduction de la réponse évoquée, la réduction ou disparition de la réponse évoquée pour une induction identique. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué, c'est une démarche qui est inhabituelle pour les kinésithérapeutes. On cherche, pour commencer, à aggraver momentanément, transitoirement, une dysmorphie, une déformation que l'on a observée à l'autre bout du corps. Puis, le critère d'arrêt, eh bien, c'est que cette déformation disparaît. Pour évaluer les techniques, on dispose d'abord de l'anamnèse, qui est un bilan classique complet, dont les tests de mobilité et dont le VA. Donc, il est inexact de dire que la reconstruction posturale n'aura que des critères morphologiques. Ce sont des critères complets. Bien sûr, la douleur, on ne va pas commencer à négliger la douleur, comme on fait parfois en restauration fonctionnelle du rachis. Alors, bien sûr, ensuite, il y a un bilan morphologique qui est très complet, très spécifique et qui est parfois même vétilleux. Il dure à peu près une heure. Le bilan d'entrée, le bilan initial est assez lourd. Ce bilan initial va servir d'étalon puisqu'on va ensuite lui opposer des bilans intermédiaires avant et après chaque séance et parfois avant et après une simple manœuvre. Alors certes, il n'existe pas de corrélation dans la littérature, et nous n'en avons pas trouvé non plus, entre lombalgie et douleur et déformation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le lombalgique est systématiquement lordose lombaire, ou le lombalgique est systématiquement en rectitude, ou le lombalgique est systématiquement en syphose. Ce serait faux d'affirmer ça, nous ne le pensons pas. Mais s'il existe une déformation dite acquise, c'est-à-dire que il ne s'agit pas d'une déformation innée qu'on avait de tout temps, comme, je ne sais pas moi, des génules varum ou des génules valgum, on peut dire qu'elle est soit antalgique, soit générée par une hypertonie des chaînes musculaires, et on peut penser que cette hypertonie participe à la genèse de cette lombalgie, puisqu'elle concerne, Yves Chartrenet l'a très bien souligné, la globalité du corps. Dans les deux cas, la réduction extemporanée, c'est-à-dire observée immédiatement pendant la manœuvre, la réduction de cette déformation, témoigne de la réduction de l'hypertonie, qui a été la déformation qui a été au préalable identifiée lors du bilan. Et cette réduction est de très bon augure. Enfin, cette restauration morphologique est objectivée, puisque c'est elle qui va être un élément de validation, de même que la réduction de la douleur, mais la réduction de la douleur ne peut être objectivée que de manière subjective. Tandis que la réduction de la la réduction des dysmorphies qui ont été observées lors du bilan peut être objectivée de manière tout à fait reproductible, que sont les photographies reproductibles face d'eau profil devant un plan quadrillé avec une espèce de permanence des différents paramètres de la photographie qui fait qu'on peut les superposer comme je l'ai montré lors de la conférence. Voilà.
Merci. Ingabor Sagi pour la méthode McKenzie.
Bon, pour les critères de jugement, je voudrais suggérer que les critères de jugement ont de deux ordres. Le premier ordre seront les critères pour déterminer précisément le diagnostic mécanique et par conséquent le type de traitement requis pour un patient donné, alors que le deuxième ordre de critères seront les critères pour mesurer si le traitement est efficace, sachant bien sûr que souvent ces deux critères se superposent. Donc, je vais commencer par les critères diagnostiques. L'interrogatoire a une importance toute particulière, c'est-à-dire qu'on va essayer de se faire déjà une première idée dans l'interrogatoire, à savoir si la douleur est mécanique, attacher une importance au mode de déclenchement, quel type d'incident et quel type de contrainte est impliqué dans l'incident qui a provoqué les douleurs, et surtout voir si dans les activités journalières du patient, on peut identifier des positions plus particulières qui aggrave ou des activités qui aggravent le patient ou qui l'améliorent et qui nous donnent une première tendance quant à la direction de traitement dont le patient a besoin et qui nous aiguille déjà vers un diagnostic mécanique et parfois vers une préférence directionnelle d'emblée. Ensuite, dans l'examen physique, les pertes d'amplitude ont une grande importance chez McKenzie, mais surtout la réponse symptomatique, soit des mouvements répétés, soit l'adoption de certaines postures de fin d'amplitude, pour voir notamment la recherche de centralisation ou de préférence directionnelle. Donc voilà pour les critères diagnostiques qui nous permettent ensuite de placer le patient dans un syndrome. Quant aux critères d'efficacité, il y a des critères de deux ordres, il y a des critères subjectifs et des critères objectifs. Et le critère subjectif, c'est bien sûr l'intensité de la douleur, qui peut être mesurée par une EV1, et aussi un critère de topographie de la douleur qui prend une importance toute particulière chez McKenzie avec les concepts de centralisation et de périphérisation. Et puis, autre marqueur subjectif, c'est l'auto-évaluation que fait le patient de ses limitations fonctionnelles. Ça peut être aussi prosaïque que la difficulté à mettre ses chaussettes en s'habillant le matin, mais le plus souvent, ça sera souvent des choses de l'ordre de l'endurance à la position assise. Bon, le patient qui nous dit « je ne peux pas rester assis plus de 20 minutes parce que ma douleur est intolérable » ou « j'ai des difficultés à être debout ou à marcher », ça peut être la capacité à soulever des charges et à les porter, la capacité bien sûr à travailler, est-ce que le patient est en arrêt de travail ou pas, la capacité à pratiquer les loisirs ou à avoir une vie de famille normale. Donc tout ça sont les critères subjectifs, donc douleur et fonction auto-reportés, auto-évalués par le patient. Et bon, puis après tout, c'est exactement pour ça qu'il vient se faire traiter. Il vient parce qu'il a mal et puis parce qu'il ne peut pas faire certaines choses qu'il voudrait faire. Et nos marqueurs objectifs, quant à eux, seront les amplitudes, la perte d'amplitude, un critère qui va être très important, c'est d'identifier le ou les mouvements qui reproduisent le plus les symptômes du patient et qu'on pourra tester et retester en cours de séance, une séance à l'autre, pour voir si, ben, si le traitement est un succès, on doit avoir une, ces mouvements qui graduellement deviennent indolores. Et ensuite, il y a la réponse au mouvement répété. Donc, pour résumer, on saura qu'un patient va mieux bon, s'il a moins mal ou si sa douleur devient plus centrale, s'il augmente sa capacité fonctionnelle dans, la, dans ses activités quotidiennes, bien sûr, s'il était sous médication, est-ce qu'il a pu arrêter de, ou diminuer ses médications, enfin, tout, toutes ces choses subjectives. Et d'un point de vue fonctionnel, si jamais il a des, retrouvé des amplitudes complètes et indolores dans toutes les directions, notamment dans les directions qui étaient les plus limitées et les plus douloureuses. Mmh. Voilà pour ma part.
Très bien, merci. Yves Chatrenet pour la thérapie active en redressement axial.
Oui, alors, moi j'ai également deux niveaux de, d'intervention, à savoir quels sont les éléments qui vont nous diriger dans l'approche musculaire, ne pas partir sur une approche musculaire standard avec une gamme d'exercices justement standardisée, mais au contraire, sélectionner dans cette approche musculaire quels sont les plus pertinents. D'une part, et puis d'autre part, juger effectivement en termes d'efficacité les résultats de cette approche musculaire et replacer plus globalement dans le contexte de la lombalgie l'évaluation du traitement. Alors concernant le premier point qui est quels sont les éléments qui vont permettre d'orienter cette approche musculaire. Il y a dans un premier temps la mesure de la disponibilité spontanée des unités motrices en redressement. C'est ce qu'on va mesurer à travers la contraction maximale volontaire, c'est-à-dire la capacité qu'a le patient à s'auto-redresser. Et donc on mesure l'intensité de ce redressement. Et suivant justement l'importance de la force développée, eh bien on aura une approche de cette disponibilité des unités motrices. Le deuxième critère, c'est de mesurer les capacités d'endurance soutenue. On sait bien que chez les lombalgiques, un des gros problèmes est l'endurance, et en particulier l'endurance soutenue de ces fameuses unités motrices vertébrales. Donc, on développe des tests d'endurance soutenue où on va travailler à 70% de la contraction maximale volontaire de façon à aller cibler les métabolismes anaérobies. Car du fait de la composition histologique des muscles vertébraux, on est obligé de mettre la barre à ce niveau-là si on veut aller puiser dans les métabolismes anaérobies. Et le troisième critère qui permet d'orienter cette approche musculaire, c'est mesurer les capacités de dynamisation répétée en redressement, toujours. C'est-à-dire qu'on va explorer l'endurance répétée. L'endurance beaucoup plus dynamisante cette fois-ci. Et ceci nous donne toujours un indicateur métabolique à travers le nombre de répétitions qui peut être effectué. Et également un indicateur fonctionnel qui là va plus rentrer dans la comparaison de l'évolution du patient. Donc le deuxième point, voilà, ça c'était l'approche, c'est qu'est-ce qui nous permet d'être pertinent dans les exercices à proposer aux patients pour favoriser cette approche musculaire. Pour juger de l'efficacité de cette approche, cette fois-ci, eh bien c'est la répétition de ces différentes mesures que je viens de citer, en début de traitement, en cours de traitement, en fin de traitement, et la répétition dans les mêmes conditions de mesure de ces différents paramètres nous donne ainsi un bilan musculaire qui peut être inclus dans la fiche bilan diagnostique du masseur kiné puisqu'on apporte des éléments objectifs dans cette construction. Et puis le dernier point, c'est évidemment comment on va juger globalement l'efficacité de la prise en charge du lombalgique, sachant que la technique qu'aujourd'hui je suis un petit peu le défenseur parmi nous trois est simplement une approche musculaire, c'est pas une technique en elle-même, c'est une approche ciblant l'aspect contractile. Donc repositionner cette technique dans l'ensemble de la prise en charge du lombalgique avec les autres techniques qui vont la compléter sera évalué à des choses assez classiques, hein, et on retombe toujours dans l'évaluation de la douleur, je ne vais pas m'étendre, Michael et Gabor l'ont bien développé. Nous, on n'utilise plus le VA, on utilise l'échelle numérique, beaucoup plus pratique et semblerait quand même que la plupart des grandes équipes de rééducation s'orientent plus vers ce pragmatisme de l'échelle numérique plutôt que de l'EVA, et ceci dans différents critères. Enfin, je ne vais pas détailler. On a une évaluation fonctionnelle qui se fait à travers des questionnaires. Quant à nous, on utilise le Loss Tree qui nous correspond bien dans cette approche fonctionnelle, et puis une évaluation de la mobilité, et de la mobilité où on va aller chercher des mouvements combinés de flexion, rotation, d'extension, rotation, pour essayer d'explorer non pas la mobilité dans les plans anatomiques, mais la mobilité fonctionnelle de la colonne vertébrale. Voilà donc quels sont les éléments d'évaluation.
Très bien.
De notre approche.
Merci. Est-ce que vous avez des commentaires sur ce que les intervenants ont dit ou
Oui, moi, Michael, j'ai une question pour Yves, si je peux, là, Pierre.
Bien sûr.
Parce que j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Yves, ça fait maintenant plusieurs fois que tu dis qu'il s'agit d'une approche, ce que je comprends bien, contractile, qui s'intéresse à la contractilité musculaire, c'est ça?
Oui.
J'ai lu avec attention l'article que tu as contribué à rédiger dans Kinésithérapie, la revue. Et puis, il y a un mélange, une espèce de martingale qui est devenue courante, je le sais, depuis quelques années, depuis Mézières en fait, entre renforcement musculaire et puis un peu d'étirement quand même. Alors, moi, j'ai du mal à mettre ça en corrélation avec ce que tu dis, l'approche contractile, parce que si le patient fait des exercices d'étirement tous les jours, si j'ai bien compris ton article, comment serrer les résultats visiblement extraordinaires que tu as obtenus et dire ce qui revient à l'approche contractile dont tu parles aujourd'hui et ce qui revient à l'approche étirement que l'on pourrait assimiler à Mézières dont tu parles aussi dans ton article, que tu évoques dans ton article. Et ce qui fait qu'il y a, une petite confusion au bout du compte, parce que dans ta conclusion, par exemple, de l'article, tu dis « Cette étude indique que l'entraînement en redressement axial répond aux recommandations en matière de lombalgie chronique en développant les qualités musculaires rachidiennes. Les effets sur la douleur à l'issue des exercices encouragent à intégrer cette forme d'entraînement dans la prise en charge des lombalgies chroniques. » Moi, je n'y vois que contractilité. Mais si on se donne la peine de lire tout l'article, on voit que les gens ont fait des étirements tous les jours. Alors, j'imagine un mésiériste, ce que je ne suis pas, qui lirait cet article, il dit bah, « Bien évidemment, Yves Chatronnet obtient des résultats fantastiques grâce aux étirements. Mais là, le discours que tu tiens, c'est les résultats ont été obtenus grâce à une stimulation musculaire maximale sur laquelle, j'espère, on va avoir l'occasion de revenir parce que celle-là aussi pose un petit peu de problème.
Oui. Alors, j'ai eu la chance d'être formé par Françoise Mézières, donc de pratiquer, je pense, bien approcher et bien maîtriser cette technique et j'ai exercé de nombreuses années avec cette technique et j'en ai vu aussi les insuffisances à la fois en termes de résultats et d'efficacité et la nécessité donc d'évoluer vers la complémentarité et une approche plus contractile également dans la complémentarité de ces techniques d'étirement. Donc tu le soulèves bien, c'est une martingale volontaire hein, parce que mon état d'esprit n'est pas d'être dans le dogmatisme, d'être le tout mono-approche ou mono-technique.
Non, mais je pense qu'on en est tous là. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans l'application. Quand tu affiches des résultats, on ne sait plus si les résultats sont dus à l'une ou à l'autre des techniques ou à la martingale en elle-même.
Mais quand on parle de résultats en matière de force ou d'endurance, je pense qu'il y a une technique spécifique qui permet d'améliorer ces résultats. Et c'est pas la complémentarité des techniques d'étirement qui contribue largement à l'amélioration de ces...
Ah non, alors là, je t'arrête. Excuse-moi, Yves. Oui. Il y a eu une étude qui a été faite à Strasbourg, au Centre de rééducation fonctionnelle des Manceaux, par Jean-Marc Keul. Elle n'a été faite que sur 11 patients, en comparatif reconstruction posturale, restauration fonctionnelle du rachis. Et c'était sur des lombalgies chroniques. Alors, il y a eu un gain global de force chez les gens qui n'avaient fait que de la reconstruction posturale, et bien entendu, on ne fait jamais de renforcement musculaire pour des raisons que je vais préciser plus tard. Il y a eu un gain global de force sur les fléchisseurs, les extenseurs du tronc, etc., etc. Donc, le fait de faire du renforcement musculaire, si tu le fais de manière exclusive, bien entendu, on ne peut attribuer les résultats en termes de gain de force que à ce que tu as fait. Mais si tu te mets à mélanger deux techniques qui peuvent paraître à certains regards opposées, alors du coup, le lecteur ne sait plus à quoi s'en tenir. Et la conclusion qui elle, ne fait référence que au renforcement musculaire est un peu désorientante.
Mais tu n'es pas sans savoir qu'il y a différentes techniques d'étirement. Il n'y a pas que les techniques type reconstruction posturale globale ou type Meusière. Il y a aussi des exercices, et c'était d'ailleurs ceci, et c'est ceci que l'on propose de première intention à nos patients, qui sont des exercices de stretching, d'auto-stretching sur des techniques passives.
Mais quelle est la différence ?
Eh bien, la différence est que les techniques Meusière ou reconstruction globale font davantage appel à la participation active. Et c'est d'ailleurs un des points que je mettrai dans les points communs, un des derniers points qu'on abordera ensemble, entre l'approche qui est la tienne et celle que
on a bien,
aujourd'hui.
On a bien compris, en tout cas, ce point de vue. Gabor, est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté ?
Non, j'aimerais qu'on avance dans les questions.
Fin de la troisième question.